Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média au menu médias et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui, on va vous faire découvrir une série sur les femmes qui font du skateboard et le nouveau Norah Jones. Il y aura le journal des médias de Cyril La Carrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino et son portrait inattendu. Notre info média, je vous apprends rien, nous sommes le 18 juin, comme le célèbre appel, il y a tout juste 80 ans. Et pour l'occasion, France 3 diffuse un documentaire sur un épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale, une mission secrète confiée par le général de Gaulle à ses deux meilleurs espions. Ce sera la séquence Révélation. Puis, nos invités, le grand reporter Alain de Chalvron, qui raconte ses 40 ans de carrière hors norme dans un récit, en direct avec notre envoyé spécial. Il a tout connu, la guerre du Liban, Bagdad bombardée, Fukushima, la Corée du Nord, et le plus douloureux, dit-il, c'était la rédaction de France 2, il nous racontera. Enfin, Amanda Sterz, pour son nouveau roman, Lettre d'amour sans le dire. Il est question de massage, de misère sexuelle, d'érotisme, de culture japonaise et même de Claude François. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Cyril La Carrière et son skateboard, bonjour.
Ça vous va bien le skateboard, mais la ouais, maison.
Je n'arrive pas à faire du skateboard. Voilà, vous avez je ne sais pas en faire.
C'est pas l'info, on a plein de choses à raconter aujourd'hui, c'est le journal des médias. Qu'avez-vous Cyril au sommaire ce matin?
Ce matin Philippe, nous consacrons une large partie de ce journal à la crise qui secoue les médias et les conséquences pour l'emploi. Mais je vous parle aussi d'un nouveau venu dans l'émission C'est dans l'air, du découpage façon puzzle de la loi audiovisuelle et on finira par le chouchou des Français.
On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Finish en beauté pour Top Chef sur M6 qui coiffe TF1 au poteau. 3 977 000 téléspectateurs ont suivi la finale du concours de cuisine remporté par, je vous le dirai pas, c'est 49 000 téléspectateurs de plus que la série The Resident sur TF1. Troisième position pour Des Racines et des Ailes sur France 3 qui a réuni plus de 2 400 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Finish, mais pas en beauté. On commence ce journal des médias avec la fin d'un magazine, Cyril.
Oui, on commence donc avec une triste nouvelle. Une nouvelle qu'on a malheureusement vue venir depuis quelques semaines. Le magazine Grazia ne paraîtra plus dans les kiosques. C'est une information de nos confrères de Stratégie. Le nouveau propriétaire de l'hebdomadaire Reworld Media a décidé d'ouvrir un PSE. C'est un plan de sauvegarde de l'emploi pour les 16 derniers salariés du magazine. Le numéro 529, paru fin mars, aura donc été le dernier de Grazia version française. 11 ans après son lancement en France. L'hebdomadaire né en Italie ne sera plus disponible en version imprimée, mais la marque va continuer d'exister sur le numérique. Selon Stratégie, 5 podcasts devraient voir le jour durant l'été et un MOOC trimestriel sortira en octobre. Un MOOC, c'est une sorte de mélange entre un magazine, revue et un livre.
Book donc.
Non,
c'est entre magazine et book. Oui, pour qu'on comprenne le hook.
Ah oui, d'accord, le MOOC, voilà.
C'est, book, c'est le hook de book.
D'accord, très bien.
Voilà.
Ce MOOC, Grazia, donc, sera produit en externe et donc plus par une rédaction dédiée.
Cyril, on a plus d'informations concernant le plan de restructuration d'Altice. Pardon.
L'intersyndicale de Next Radio TV a dévoilé les contours du fameux plan de reconquête du groupe Altice. Plan de reconquête, c'est le terme qu'avait utilisé Alain Veil, le patron du groupe, pour annoncer cette vague de départ. Et cette reconquête va coûter très cher sur le volet social. Selon l'intersyndicale, le plan de départ volontaire va concerner entre 330 et 380 CDI sur les 1600 salariés que compte le groupe. 200 pigistes et intermittents devraient également faire les frais de cette restructuration. Au total, ça représente pas loin d'un salarié sur trois menacé par ce plan. Les représentants des salariés appellent maintenant à une assemblée générale le 23 juin pour décider des actions à mener pour protester contre les décisions de la direction d'Altice.
Et Altice, c'est notamment BFM et RMC. C'est hier à ce micro, Stéphane Albouy, le directeur des rédactions du Parisien, était venu présenter le nouveau projet éditorial du quotidien. Un nouveau projet qui est loin de faire l'unanimité parmi ses salariés.
Et oui, on peut même carrément parler de rejet. Hier, les salariés rassemblés en assemblée générale se sont prononcés sur les projets de leur direction. 255 ont voté contre, 79 ont voté pour et 35 se sont abstenus. Ce que les salariés reprochent, c'est la transformation des pages régionales. Terminer les éditions dédiées à chaque département, place à un cahier unique de 12 pages où seront regroupés tous les reportages des équipes locales et qui sera le même que vous habitiez à Paris, en Seine-et-Marne ou dans l'Oise. Nous avons joint hier, après l'AG, Olivier Corsan, élu SNJ au sein du Comité social et économique du Parisien où il est reporter photographe depuis 23 ans et nous explique pourquoi les salariés rejettent ce projet éditorial.
Ça touche à l'identité connectée à l'ADN même du Parisien. La rédaction et au-delà de ça, les salariés du Parisien sont très attachés à cela parce que cette information locale et départementale, c'est notre force et notre richesse. Les politiques et les médias sont aujourd'hui considérés souvent très loin, entre guillemets, de la population. Eh bien, nous, il faut savoir qu'au Parisien, il y a à peu près 130 journalistes qui, tous les jours, travaillent exclusivement sur l'information de l'Île-de-France, à peu près une dizaine dans chaque département. Et tous les jours, il y a des pages là-dessus sur l'actualité département. On ne va pas en banlieue uniquement quand ça brûle. On y va tous les jours de l'année. Alors, bien entendu, le choix de la direction n'est pas de supprimer totalement la présence des journalistes dans les départements, mais c'est de la réduire considérablement. Et surtout, ce qui nous inquiète, c'est que demain, on se dit quel va être l'espace éditorial dédié à cette information. Et là, là-dessus, on n'a pas de réponse satisfaisante de la part de la direction.
Les équipes du Parisien demandent donc qu'il n'y ait pas de suppression de postes et d'emplois. Une trentaine sont prévues et ils demandent le rétablissement d'un espace dédié à chaque département sur les éditions print et le site du Parisien. Dans ce contexte de tension et d'affrontement, est-ce qu'il faut craindre une grève des salariés ? La réponse du délégué SNJ.
En tout cas, certains souhaitaient clairement la grève, d'autres ne la souhaitaient pas aujourd'hui, pensaient que ce n'était pas encore opportun de l'envisager. Mais ce que je sais, c'est que si aujourd'hui la question pouvait se poser demain entre les salariés, si oui ou non une grève était envisageable, je pense que si la semaine prochaine, si on a une fin de non-recevoir quant à cette volonté de négocier et de construire quelque chose ensemble avec les salariés, à ce moment-là, si ça est balayé de la main de la part de la direction, là, je pense qu'il est fort probable que les salariés, comme ils l'ont montré aujourd'hui, se mobilisent pour envoyer une réponse et un message beaucoup plus dur au groupe LVMH, qui est propriétaire du Parisien.
La semaine qui arrive sera donc décisive pour savoir si un accord peut être trouvé ou si l'apparition du journal risque d'être menacée.
Et puis au journal L'Équipe également, la crise couve.
Il y a 10 jours, la direction du quotidien sportif annonçait à son tour un plan de transformation avec des mesures choc pour les salariés. Augmentation du temps de travail par la suppression de RTT et réduction des salaires de 10%. En échange, la direction de L'Équipe s'engageait à ne pas procéder à des licenciements jusqu'en 2024. Le journal prévoit une perte d'exploitation proche de 16 millions d'euros cette année, alors qu'il avait gagné pas loin de 5 millions l'an dernier. Hier, 255 salariés de L'Équipe ont signé une lettre dans laquelle ils écrivent refuser que la direction touche à leur salaire et à leur jour de congé. Ils disent également qu'ils ne participeront pas aux réunions d'information prévues dans les prochains jours. Les signataires rappellent qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts depuis des années, qu'ils ont subi une dégradation permanente de leurs conditions de travail et que, dans le même temps, les plans sociaux se sont succédés. Ces 255 salariés disent faire confiance à leurs élus pour les représenter lors des futures négociations.
Et puis sans transition, comme disait PPD dans les guignols, un petit nouveau du côté de C'est dans l'air.
Les vacances approchent pour tout le monde, mais toutes les émissions ne s'arrêtent pas. C'est le cas de C'est dans l'air sur France 5. Le programme de fin d'après-midi s'est donc trouvé un nouveau joker. Il s'agit de Bruno Duvic, le journaliste qui présente la tranche d'information de la mi-journée de France Inter. Bruno Duvic va donc remplacer d'abord Axel de Tarlé le vendredi 3 et samedi 4 juillet. Puis il reviendra à l'antenne du 3 au 15 août, cette fois pour s'occuper des émissions de la semaine et du week-end.
Et puis on a des nouvelles de la loi sur la réforme de l'audiovisuel. Enfin, la loi, l'arlésienne,
la fameuse,
depuis le temps qu'on l'annonce.
Ce qui s'annonce, en fait, c'est une vente à la découpe. Édouard Philippe a reçu hier 10 dirigeants de l'audiovisuel privé et public pour leur dire que la grande loi que devait porter le ministre de la Culture serait finalement saucissonnée. Concrètement, le Premier ministre a annoncé la création d'un crédit d'impôt sur les investissements dans les programmes et la création. En juillet, le gouvernement publiera également un décret pour assouplir les règles sur la publicité à la télévision et supprimer les fameux jours interdits. Vous savez, ce sont ces jours comme le mercredi ou le samedi soir où les chaînes de télé n'ont pas le droit de diffuser des films de cinéma. Et en juillet toujours, le gouvernement fera entrer dans le droit français une directive européenne importante qui obligera les plateformes comme Netflix et Disney Plus à participer au financement de la création.
C'est en gros ce que nous annonçait le sénateur André Gattolin il y a 2 jours à ce micro, mais il manque encore une bonne partie du texte, Cyril.
Et oui, effectivement, on vous a pas mal parlé de la création d'une holding regroupant l'audiovisuel public. Eh bien, ce sujet a clairement du plomb dans l'aile. Si le Premier ministre dit que les autres dispositions du texte seront examinées dans un autre texte en septembre, seuls y figureront les éléments les plus urgents. Et qu'est-ce qui est urgent ? Eh bien, on le saura cet été, après un arbitrage au plus haut sommet de l'État. Et tiens, puisqu'on parle de l'audiovisuel public, on ne sait toujours pas ce qu'il en sera de France 4 et de France O. Les deux chaînes doivent fermer fermée le 9 août. Mais cette fermeture est suspendue à un arbitrage. Devinez de qui ? Eh bien, du plus haut sommet de l'État.
Eh bien, justement, on reste au sommet pour finir. Vous vouliez terminer par le nouveau chouchou des Français.
Eh oui, le nouveau chouchou des Français, selon un sondage TV Mag Opinionway. Eh bien, c'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du 13h de TF1, est le numéro 1, la personnalité préférée de la télé pour les Français. C'est la première fois qu'il accède à ce sommet du classement. Il a gagné 6 places par rapport à l'année dernière. En deuxième position, c'est Stéphane Bern qui gagne lui 4 places. Et troisième position pour Nagui qui occupait la première place l'an dernier. Bravo Jean-Pierre.
Et Michel Simès ?
Michel Simès, il est cinquième.
Merci, le camion, il est dans le quintet. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau Journal des Médias.
À demain.
À suivre l'infomédia du jour avec un documentaire au programme Les Espions du Général. C'est diffusé ce soir sur France 3 et on en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est leur Philippe de l'Info Média du jour.
C'était il y a 80 ans, tout pile aujourd'hui, l'appel du 18 juin du général de Gaulle depuis Londres en 1940, faut-il le rappeler. Et pour l'occasion, France 3 diffuse ce soir un documentaire sur un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Une mission secrète confiée par le général à deux de ses meilleurs espions, le colonel Passy et Pierre Brossolette. Leur rôle fut décisif pour la suite du débarquement l'année suivante et pour l'avenir politique du général de Gaulle. Documentaire qui mêle fiction et archives. Il a été coécrit par les petites filles de ces deux espions français et l'une d'elles est notre invitée ce matin. Bonjour Sylvie Pierre-Brossolette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans plusieurs rédactions, notamment pour Le Point, dont vous étiez la rédactrice en chef, puis vous avez été membre du CSA. Quelle était exactement cette mission secrète confiée par De Gaulle à votre grand-père et au colonel Passy, André de Wavrin, de son vrai nom ?
Mais justement, c'est parce que c'est très méconnu, alors que ça a été un tournant de la guerre, que la petite fille du colonel Passy, Marie de Wavrin et moi-même, avons jugé utile de la faire connaître, et surtout pour les jeunes générations, pour qui ça ne disait pas grand-chose. Passy est un nom connu, Brossolette aussi, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? On ne savait pas très bien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait d'important ? D'abord, ils ont créé et animé le BCRA, l'ancêtre des services secrets de la DGSE, et surtout, toute la guerre, ils ont fait des missions, organisé la résistance, et surtout encore, accompli une mission historique en janvier 1943 dans Paris occupé, janvier, mars, avril, et en quelques semaines, ils ont unifier les mouvements de résistance de la zone nord, fait qu'ils s'entendent entre eux, fait qu'ils acceptent l'autorité du général de Gaulle, fait qu'ils acceptent de collaborer avec les anciens partis. Tout ça était extrêmement difficile, mais vital pour le général de Gaulle, car c'était à un moment où même Churchill doutait de Gaulle. Roosevelt rejetait de Gaulle au profit de Giraud. De Gaulle était en mal de légitimité. Moulin avait unifié la zone nord derrière de Gaulle, la zone sud derrière de Gaulle, mais il restait toute cette zone nord qui était la plus importante, où il y aurait le débarquement, où on connaît très mal ce qui se passait. Et au mépris des mille dangers de Paris occupé, sillonné par les Allemands et les nazis, Passy et Brossolette se sont jetés dans la gueule du loup et ont fait le job, ont rempli leur mission à la barbe des Allemands. Ils habitaient à côté d'eux. Ouais. Et ils ont réussi, et c'était pas facile, hein, parce que les mouvements de résistance étaient très rebelles, voulaient garder leur autonomie, Londres c'était loin. Alors finalement, en quelques semaines, ils ont réussi à unifier ces mouvements et ces partis, et ça a permis la création du Conseil national de la résistance, qui a pu être présidé par Moulin, et d'autre part, de former une armée secrète dans le Nord, et d'aider au débarquement. D'ailleurs, c'est le grand chef des services secrets américains Sullivan qui dit que 80% des renseignements des alliés venaient du BCRA au moment du débarquement. Donc ouais. Cette mission a été fondamentale, elle a légitimé De Gaulle aux yeux des alliés et elle a aidé le débarquement.
Avant qu'on parle de votre documentaire à proprement parler, Sylvie Pierre-Brossolette, qui était le colonel Passy et Pierre Brossolette autour pour le général De Gaulle ?
Eh bien, le colonel Passy est arrivé tout de suite en 40 à Londres. Il était un jeune militaire de 30 ans. Ouais. De Gaulle lui a demandé de lui créer les services secrets. Passy n'avait jamais fait ça, mais avec rien du tout, des bouts de ficelle. De Gaulle lui a dit « débrouillez-vous ». Il a été formidable. Il a créé l'embryon des services secrets qui ont fini à la fin de la guerre par réunir réunir 80 000 personnes à Londres et en France. Et Brossolette, qui a commencé par résister en France et qui a rejoint Londres en 1942 quand il s'était trop dangereux pour lui de rester à Paris, est devenu son second. Et à eux deux, Passy plutôt le militaire et l'organisateur, et mon grand-père plutôt le politique et le journaliste et celui qui avait les contacts. À eux deux, ils ont été formidablement complémentaires. En plus, il y a eu un coup de foudre amical entre eux. Ils se sont très très bien entendu, et c'est comme ça qu'à eux deux ils ont réussi cette mission qui paraissait impossible, ouais. Début 43 à Paris.
On va justement venir à cette mission Arquebuse-Brumaire, c'était son nom de code. Il y a très peu d'archives de l'époque, forcément, puisque c'était confidentiel, secret. Alors, le réalisateur du doc, Richard Puech, a utilisé un procédé original pour mettre cette histoire en image. Expliquez-nous.
Oui, parce que, comme vous le dites très bien, par définition, une mission secrète, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas une caméra et des journalistes derrière pour filmer
et des notes.
Tout leur contact. Donc, nous avons reconstitué, grâce évidemment aux mémoires du colonel Passy, aux mémoires de Yeo Thomas, qui est le troisième espion qui était avec eux, l'espion anglais, grâce à beaucoup de témoignages de l'époque, grâce à toutes les notes de mission de Pierre Brossolette, à ses discours, à tout ce qu'il pouvait raconter aux témoins de l'époque, on a reconstitué leur état d'esprit, qu'est-ce qu'il se passait, et on a interrogé les personnages qu'on a fait incarner par des acteurs en costume d'époque, pour leur faire raconter la mission, leurs impressions, l'importance de ce qu'ils faisaient, comment ça allait, les angoisses qu'ils avaient, les espoirs. Et donc, ça rend le documentaire très vivant. Mmh. Il n'y a pas juste une série de vieux messieurs qui racontent leurs souvenirs de guerre. Ce sont des acteurs qui ont l'âge de l'époque et qui racontent les hauts et les bas de cette mission et finalement le grand succès qui a permis, comme je vous l'ai dit, la création du Conseil national de la résistance et facilité le débarquement.
Sylvie-Pierre Brossolette, vous parlez de Yeo Thomas, le narrateur, la voix off, c'est lui.
Je m'appelle Forrest Yeo Thomas. Je suis un espion anglais. Oui, je sais, ça ne s'entend pas. C'est parce que j'ai longtemps vécu en France avant la guerre. C'est moi qui vais vous raconter cette histoire. Tout simplement parce que j'y étais. Avec Passy et Brossolette, on a plongé ensemble dans Paris occupé. J'étais là pour les aider et aussi, je dois l'avouer, pour les surveiller un peu.
Et je voudrais qu'on entende comment est présenté votre grand-père, Pierre Brossolette, dans le documentaire. Le narrateur que vous allez entendre, c'est donc ce troisième qu'on vient d'entendre, c'est ce troisième espion anglais. Et la voix qui suit, c'est celle du général de Gaulle, incarné par le comédien Pascal Racan.
C'est un homme de gauche, un normalien, un journaliste déjà célèbre dans les années 30. Il fait partie de ceux qui étaient prêts à risquer une guerre pour arrêter Hitler. Il nous a rejoints à Londres en 1942.
Brossolette nous apporte beaucoup. C'est un esprit brillant. Il a été le premier à avoir vu la France de demain, cette France rassemblée et sauvée par De Gaulle. En somme, il a inventé le gaullisme comme doctrine.
D'un mot, Brossolette, c'était un nom de code ?
Ah non, Brossolette, c'était son nom propre. Ouais. C'est Brumaire, le nom de code.
D'accord.
Pierre Brossolette, c'est son nom d'origine. Il était connu sous ce nom comme effectivement journaliste, homme politique. Il est d'abord été au Parti radical, puis au Parti socialiste. Il était proche de Blum. Il tenait une chronique, d'ailleurs, à ce qui était l'ancêtre de France Inter, une chronique de politique étrangère tous les jours à la radio, où il était anti-munichois et il se mettait en garde de toute la classe politique française et toute la France tous les jours contre les dangers de Hitler.
Ouais.
Et il a écrit aussi au Populaire. Donc il était très connu, c'était déjà une figure qui connaissait tout le milieu politique, tout le milieu médiatique de l'époque, et il avait 10 ans de plus que Passy, et quand il est arrivé à Londres, effectivement, il avait déjà une aura,
ouais,
qui impressionnait. Il était très brillant.
Je vous interromps une seconde.
Avec Passy, c'était formidable parce qu'ils étaient complémentaires. Passy,
on va raconter ça, je vous interromps une seconde parce qu'il, oui, faut qu'on marque une pause à 30 piles. Je vous raconte tout, vous connaissez la radio comme moi, Sylvie-Pierre Brossolette, et on continue de parler de ce documentaire.
80 ans aujourd'hui que l'appel du 18 juin a été lancé par le général de Gaulle, et ce soir sur France 3, vous pourrez découvrir le documentaire Les espions du général, dont on continue à parler avec notre invité dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Durant l'hiver 43, le général de Gaulle envoie ses deux maîtres espions dans le Paris occupé avec une mission, préparer le débarquement. C'est le sujet du documentaire diffusé ce soir sur France 3 à 22h45 et on en parle avec notre invitée Sylvie-Pierre Brossolette qui a coécrit ce documentaire, Philippe.
Alors Sylvie-Pierre Brossolette, il faut bien comprendre que c'était une mission très compliquée, déjà parce que les deux agents étaient à Londres, il fallait donc commencer par trouver un moyen d'arriver à Paris, dans Paris occupé. Pierre Brossolette, votre grand-père, part le premier et il prend des mesures de précaution.
Je me suis laissé pousser la moustache, moi qui n'en ai jamais porté. Et surtout, j'ai teint ma mèche blanche, qui est vraiment reconnaissable. Je suis sûr que ma photo est déjà dans les fichiers de la Gestapo. J'emporte mon ordre de mission caché dans le talon de ma chaussure. C'est une mission politique. Et à ce titre, je suis sans doute le Français de Londres qui a le plus d'expérience.
Et on aura reconnu la voix de Christophe Barbier, qui est aussi comédien, en plus d'être éditorialiste à l'Express et à BFM TV. Comment votre grand-père va-t-il parvenir à Paris ?
Il parvient par ses petits avions pendant la nuit. Vous savez, c'était toujours très dangereux. On ne savait pas si le comité d'accueil, ce serait les résistants ou la Gestapo. Mais enfin, il est arrivé sans encombre. Et ce que je voulais souligner, c'était que, quand on a été interrompu, c'est que Passy et Brossolette étaient tellement complémentaires, le polytechnicien et le normalien, mais ce qui les liait, c'était le courage. Et vous voyez, ces expéditions la nuit, Brossolette est arrivé en avion, puis Passy a été parachuté. Rien que ça, le courage physique, le courage moral. Et c'est ce que nous avons voulu souligner dans la tribune que nous venons de co-signer, Marie de Vavrin et moi, sur le site du Point qui est disponible depuis ce matin, c'était de montrer que quand il y a l'adversité, on peut ne pas baisser les bras, on peut agir plutôt que subir. Et c'est une leçon d'engagement d'hier, pour hier, comme pour aujourd'hui, comme pour le monde de demain. Et face aux risques militaires comme sanitaires, on a toujours le choix de se battre. Et c'est des hommes qui se sont battus, et c'est ce que nous avons voulu écrire toutes les deux dans le Point, à destination de nos contemporains. Les leçons d'hier valent pour aujourd'hui. On peut toujours montrer du courage. Et effectivement, dans cette mission, c'était terriblement périlleux. Donc Brossolette arrive un mois avant Passy, parce que Churchill ne voulait pas laisser les deux chef des services secrets de la France libre exposé à l'ennemi. Finalement, il a cédé effectivement contre le fait d'envoyer Yeo Thomas, l'espion anglais, les surveiller un peu. Et ils se sont très bien entendus tous les trois. Et Passy et Brossolette, à tout moment, ils auraient pu se faire prendre.
Ah bah justement.
Comme d'ailleurs, malheureusement, Brossolette l'a été la mission d'après. Ils ont été bénis des dieux et puis leur courage a fait merveille. Ils ont réussi leur mission. Mais c'était vraiment horriblement difficile, et puis de repartir aussi, même chose, avec des avions, en pleine nuit, toujours à la merci d'un traquenard des ennemis.
Ouais. Et je voudrais qu'on entende, justement, ce que vous en parlez, le colonel Passy et l'agent anglais Forrest, Yeo Thomas, qui doivent être parachutés au risque de leur vie. Ils parviennent à rejoindre Pierre Brossolette, votre grand-père, à Paris. Ils ont bien failli ne jamais quitter Londres. On entend ça dans votre doc.
Les collègues nous donnent tout l'attirail du parfait agent secret. Des armes, des faux papiers, de l'argent, un appareil photo miniature. Et c'est là qu'on nous pose la question rituelle. Est-ce que vous voulez emporter une pilule de cyanure ?
On nous a promis qu'avec ça, on y passe en 5 secondes. J'ai caché la mienne dans la poche de mon gilet.
Je l'ai caché dans ma chevalière. Mais juste avant le départ, je me suis fait peur. Je me suis passé un peu d'eau sur le visage en oubliant de l'enlever. Et le poison est entré en contact avec l'eau. Et d'un coup, je me suis mis à gonfler.
Bah, j'ai bien cru que la mission était finie avant d'avoir commencé. Il avait les yeux qui gonflaient, les lèvres. J'ai cru qu'il allait s'étouffer.
Heureusement, j'ai vite dégonflé. On m'a donné une autre pilule et quelques heures plus tard, j'étais dans l'avion.
Alors, vous l'avez dit, Charles de Gaulle avait besoin de cette mission d'un point de vue politique parce que Roosevelt lui préférait le général Giraud comme chef de la résistance. Et donc, pour lui, c'était très, très, très important de marquer son pouvoir à Paris. Mais la mission également est très périlleuse. Brossolette et le colonel Passy, ils doivent communiquer, rencontrer des résistants dans un Paris occupé. Ils risquaient leur vie à chaque sortie, ça vous le rappelez vraiment bien. Et ils parviennent à réaliser un exploit, vaincre les désaccords, les rivalités des différents mouvements de résistance en 2 mois et demi seulement, et ils font une réunion historique à Paris, menée par Jean Moulin, c'était le 3 avril 43. Juste cette question, comment prennent-ils le risque de faire une réunion aussi périlleuse dans Paris ? Pourquoi pas un autre lieu ? C'était la moins mauvaise solution, ils ont joué leur vie là-dessus.
Mais c'était là que ça se passait, c'est là que les chefs étaient, c'est là qu'ils venaient de discuter. Moulin est arrivé une fois que Brossolette et Passy aient terminé le travail, dans une réunion épique où il a fallu expliquer que les partis n'étaient pas des partis, mais des tendances, des grandes tendances de la France, pour que les mouvements de résistants qui détestaient les partis acceptent. Enfin, il y a eu une énorme discussion, une réunion beaucoup plus importante que celle très symbolique de création du CNR après à la fin de la mission. Mais cette dernière discussion avec les chefs de parti et les mouvements était quelque chose de prodigieux, inespéré, presque miraculeux. D'ailleurs, on parlait du danger de la mission. Beaucoup y ont laissé leur peau, hein, dans tous les personnages qu'on voit apparaître dans ce documentaire.
Ouais.
Ça a été pas une partie de plaisir, vraiment, pour la plupart d'entre
eux. Et on va le dire.
Et c'est un miracle que Passy et Brossolette en soient revenus indemnes. Et effectivement, cette réunion était également dangereuse, mais c'était la suite logique de tous les contacts qu'il y avait eu. Tout le monde était là. Moulin n'a plus qu'à arriver et présider cette réunion, avaliser le travail de la mission de Passy et Brossolette, et ça a ouvert la voie au CNR, qui a eu le rôle que l'on sait à la libération.
Et je vais le dire pour dire à quel point c'était dangereux, c'est malheureusement pas votre grand-père qui a pu vous raconter tout cela, puisqu'il s'est suicidé en mars 44 après avoir été arrêté et torturé par la Gestapo, et votre grand-père n'a jamais parlé. Merci beaucoup Sylvie Pierre-Brossolette, Les Espions de Général, le documentaire que vous avez coécrit et diffusé ce soir à 22h45 sur France 3. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.
Notre prochain invité est Alain de Chalvron, grand reporter et publié en direct avec notre envoyé spécial, et vient nous en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Alain de Chalvron.
Bonjour Alain de Chalvron.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, grand reporter, avec une carrière grande comme le bras qui s'étend sur 4 décennies. Vous avez quitté France Télé en 2016 et vous racontez cette carrière hors norme dans ce livre, en direct avec notre envoyé spécial aux éditions de l'Archipel. Sur la couverture, on vous voit en costume cravate devant la Maison Blanche, mais vous avez également beaucoup été sur le terrain, et La Nouvelle République résume ainsi votre livre. Ses mémoires sont comme un cours d'histoire. Alors je vais essayer de résumer avant qu'on entre dans le vif du sujet. Vous avez rencontré l'ayatollah Khomeini, Yasser Arafat, vous avez connu la guerre du Liban, vous étiez l'un des rares journalistes présents lors de l'attaque d'Israël au Liban, vous avez également connu les bombes américaines en Irak quand les États-Unis ont déboulonné Saddam Hussein, vous étiez correspondant à Washington des années, à Pékin, à Rome, vous avez fait 26 voyages avec le pape, vous êtes allé en Corée du Nord, vous étiez au Japon pendant l'accident nucléaire de Fukushima, vous avez rencontré tous les présidents français depuis Giscard, quasiment tous les présidents américains depuis Reagan et les trois derniers papes. Quand vous retournez sur cette carrière hors norme, vous retenez quoi ?
Cette vie, ouais. On n'aura pas assez de temps, non, avec votre vie. Non, mais vous mentionnez l'ayatollah Khomeini, par exemple. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. Je me suis retrouvé à Nauf-le-Château, j'étais tout jeune journaliste.
En banlieue parisienne.
Oui, je devais avoir 25-26 ans. Et on me dit, va voir ce type-là, je ne sais pas trop qui c'est, un Iranien, bof, il vient d'arriver. Et j'arrive là-bas, à Nauf-le-Château, il y avait un autre journaliste, Éric Rouleau du Monde, et l'ayatollah qui parlait, il nous a dit de nous asseoir sur le tapis et on l'a écouté parler pendant 5 heures, on ne savait pas ce qu'il disait. Mais on a compris que c'était important parce que tout ça passait ensuite en Iran avec des cassettes, etc. Et ça a fait la révolution finalement.
Attendez, vous enregistrez quelqu'un sans comprendre ce qu'il dit ?
Oui. Enfin, quand même, il y a de temps en temps un type qui venait nous dire, voilà, il est en train de dire ça, mais c'était très religieux.
Non mais pardon,
tout ça,
dire ça, mais c'est le contraire du journalisme, non ?
Ah ben non, mais on avait quand même... Il n'y a pas que ce que dit la personne, il y a la façon dont il le dit, et il y avait son regard. Alors ouais, là, je peux vous dire que le regard de Khomeini, c'est pas rien. Hein.
Alors, évidemment, il faut choisir. Vous consacrez un chapitre au Liban, c'est le troisième, je vous lis. Il faut être fou pour s'installer à Beyrouth en 80 avec femme et enfant. Aurélie a 3 ans, Marc est devenu grand reporter 3 mois. La guerre civile a déjà commencé. Vous avez failli y laisser votre vie, Alain de Chalvron. Vous étiez fou ou vous aviez trop besoin de travailler ?
Ah non, je voulais absolument aller là-bas. Non, j'étais fou, ouais. Autrement dit. Non, c'était pas du tout un besoin de travailler. J'étais à France Inter, j'aurais pu ne pas être candidat, tout simplement.
Et on apprend qu'il y avait un contrat sur votre tête, au bout d'un certain temps. De la part de qui ? Et surtout, quelles conséquences pour vous ?
Alors, je ne sais pas exactement de qui. Il y avait 2 hypothèses. Alors, j'avais fait quelque temps auparavant une interview du chef de l'Assala. L'Assala, c'est l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, qui avait fait des attentats à Paris, etc. Et ça s'était pas très bien passé avec lui. Et donc ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'était l'époque où Carlos, attaquer la France.
Ouais, le terroriste. Hein.
Voilà, le terroriste Carlos. Et il avait tué un couple de Français juste en face de chez moi. Et donc, c'était la deuxième hypothèse. Puis finalement, il y a eu l'invasion israélienne. Et tout ça.
Vous renvoyez femme et enfant à Paris, mais vous-même, vous restez à Beyrouth. Vous écrivez « Je vivais une vie clandestine, ne couchant jamais deux soirs de suite au même endroit ». Vous aviez même un Colt. Vous saviez vous en servir ?
Non, mais on m'avait dit, c'est pas compliqué. Si quelqu'un rentre chez toi, tu tires à travers la porte. Voilà. Ouais.
Et pardon, c'était légal. Est-ce que la rédac à Paris le savait, que non. vous étiez armé ?
Non.
Voilà, maintenant ils le savent. Vous avez également échappé à la mort lors d'un raid israélien le 5 juin 82. Vous êtes passé à deux doigts.
Oui, alors ça, c'est vraiment le destin, quoi. Effectivement, c'était le premier bombardement de la guerre de 82. Et j'arrive au bureau en voyant, en entendant et en voyant, parce que mon balcon, on voyait très bien les bombardements. Hein. Et j'arrive au bureau et je me dis, je vais partir là-bas. Et je rencontre le gars, le caméraman de TF1 qui me dit, viens avec nous. Et je dis, oui, bien sûr. Voilà. Et puis en chemin, je me dis, non, je vais quand même faire le prochain flash. Heureusement, parce que lui est mort. Il a été une des premières victimes de ces bombardements. Et probablement, je serais resté avec lui.
Comme si cela ne suffisait pas, vous étiez à Bagdad au moment de l'attaque américaine décidée par George Bush en mars 2003. Et là, on frémit. Vous avez vraiment pensé que Saddam Hussein allait vous utiliser, vous et d'autres journalistes, comme bouclier humain ?
Oui, parce que c'était ce qui se disait avant. Et il y avait beaucoup de rumeurs hein, dans les jours qui ont précédé. Et on se disait, oui, ils vont nous mettre dans des centrales thermiques ou ça, pour éviter d'être bombardés. Puis finalement, rien ne s'est passé.
Mais à ce moment-là, vous dites quoi ? Vous dites, qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'ai choisi ça ? Je vais mourir pour mon travail ? Ou vous dites, non, c'est ma mission de journaliste ?
Écoutez, moi, j'avais quand même quelque part confiance que ça ne se ferait pas comme ça. C'est-à-dire, on ne serait pas mis utilisés comme des otages. Nous tous, parce qu'ils avaient besoin de ça, et nous particulièrement français, parce qu'on avait quand même une position à ce moment-là vis-à-vis de l'Irak qui était très positive vue par les Irakiens.
On ne peut évidemment pas tout raconter. J'aime beaucoup votre découverte, je saute d'un continent à l'autre, de la Corée du Nord. Vous n'avez pas vu les camps de concentration, mais vous avez vu quelque chose dont vous dites que ce serait un rêve pour Anne Hidalgo, des rues sans voiture.
Oui, alors il y avait très très peu de circulation. Je crois qu'il y en a un petit peu plus maintenant, ouais. Mais je n'ai plus jamais eu de visa, pour vous dire la vérité. Et donc, on était effectivement dans cette grande ville de Pyongyang, sans voiture, mais il y avait quand même une policière au milieu du carrefour. Et moi, je devais traverser, je voulais aller de l'autre côté.
La policière, elle faisait la circulation ?
Ah oui, elle faisait tous les gestes qu'il fallait, comme s'il y avait des voitures.
Mais il n'y avait pas de voiture.
Mais il n'y avait aucune voiture. Et moi, je traverse la rue, comme ça, il n'y avait aucune voiture, devant la policière, qui m'engueule en me disant « Mais non, monsieur, vous devez traverser par le passage souterrain. » Parce qu'il y avait des passages souterrains et il n'y avait pas de voiture. Je me suis dit « Pourquoi passer par le même ?» Je suis quand même passé par le passage souterrain. Et en face, il y avait des espèces de où on vendait des saucisses, vous voyez, des trucs comme ça. Mais c'était à un prix hallucinant, c'était un demi-mois de salaire. Et c'était ça qu'on ne voulait pas que je voie.
Ah oui, et les supermarchés aussi, ils ne voulaient pas que vous filmiez les supermarchés.
Non.
Et vous avez compris pourquoi ?
Oui, parce que le guide lui-même nous a dit, ben non, ça ne sert à rien, il n'y a rien dans ces supermarchés.
Vous restez avec nous, on va parler de Fukushima, on va parler de sport. Vous avez fait quelque chose qui fait plaisir à toutes les rédactions sportives en ce moment en France. Vous avez changé la loi, on va entendre ça, vous restez avec nous.
C'est le grand reporter Alain de Chalvron qui est notre invité. On continue à parler de son livre en direct avec notre envoyé spécial où il nous fait passer de l'autre côté de l'écran. Et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Notre invité est Alain de Chalvron, grand reporter sur France 2. Il a couvert l'actualité internationale de ces trois dernières décennies et a décidé de nous raconter l'envers du décor dans ce livre en direct avec notre envoyé spécial sorti aux éditions de l'Archipel.
Parfois, malheureusement, l'envers du décor, c'est aussi l'endroit. L'accident nucléaire de Fukushima. Vous y étiez sur place, vous êtes parti de Chine pour aller à Fukushima. Vous avez eu peur et surtout, est-ce que vous avez encore peur ? Je vais vous dire le sens de ma question. Comme vous le dites, la radioactivité, pardon de vous dire ça, c'est un mal qui ne se voit pas et qui peut faire des ravages des mois, des années plus tard.
Alors c'était assez effrayant. C'était plus angoissant que vraiment une peur. C'était une angoisse. On se disait, mais qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Enfin, est-ce qu'il y a de la radioactivité ? C'est comme les virus, en fait, si vous voulez.
Vous étiez à quelle distance ?
J'étais à Tokyo et c'était à peu près à 250 km de Fukushima, à vol d'oiseau. Quoi.
Ouais. Et vous avez eu peur ?
Non. Peur, pas vraiment. Je vous dis, j'étais angoissé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le sentiment que ça a fait dans la population. La population était, évidemment, il y a 35 millions d'habitants à Tokyo. Il est impossible de les évacuer, naturellement. Et les journalistes qui sont venus de France ont voulu partir. La plupart, on est restés 4 pour nous, France Télé, il y avait mon équipe, un jeune journaliste et moi. Voilà, tout le monde est parti, on n'avait même pas de caméraman.
Il y avait aussi un Suisse dont je me souviens qui faisait des trucs pour la TSR et pour Radio France sous un faux nom. Exactement. Je me souviens très très bien. Christophe, non pas Christophe Charles, je me souviens un peu comment il s'appelait. Il y a même des t-shirts à son effigie maintenant.
Ah bon,
le gars de la TSR. Il faut raconter, vous étiez à l'époque en poste à Pékin, vous prenez le premier avion pour le Japon, vous pensez rester seulement quelques jours parce qu'on ne sait pas qu'à la catastrophe nucléaire, on pense que c'est d'abord un tsunami.
Voilà,
vous aviez un seul pull, un pull bleu, et ce pull. On l'a vu, parce que vous étiez direct sur direct, on l'a vu 10 jours de suite à l'antenne, au point que c'est remonté jusqu'au Premier ministre de l'époque, François Fillon, raconter l'histoire du pull bleu.
Alors, oui, effectivement, François Fillon était invité du journal et il me voit en direct du Japon avec mon pull bleu, une gueule de déterré, parce que c'était quand même 4 heures du mat. Et il dit, oh là, le pauvre type que vous avez envoyé là-bas, puis en plus, il est toujours habillé pareil avec ce pull bleu. Prise de conscience à la rédaction, mon Dieu. Ce pull bleu, il faut qu'on ne le voit plus, quoi. Il faut qu'il change de pull. Alors, on discute beaucoup, puis on demande à un de mes copains, un de mes bons amis même, Gérard Grisbeck, de faire l'intermédiaire. Il m'appelle, mais tu sais, ton pull bleu, change-le quand même, il y en a marre de te voir toujours avec ce pull bleu. Et donc, j'obéis, j'achète un pull et je change de pull. Et là, j'ai eu, mais vraiment, des centaines de messages sur Facebook. On veut le pull bleu, où est le pull bleu, donnez-nous le pull bleu. Il y a même quelqu'un qui m'a proposé de mettre le pull bleu en enchère
sur
eBay pour qu'on donne l'argent aux rescapés du tsunami, ou plutôt aux victimes du tsunami. Ouais.
Et ironie de l'histoire, c'est François Fillon qui s'inquiétait de votre tenue vestimentaire quand on connaît l'affaire des costumes.
Je viens d'y penser à l'instant.
Un mot de sport, les services des sports de toutes les chaînes vous doivent beaucoup à Alain Chavron, parce que lorsque vous étiez directeur de la rédaction de France 2, parce que je ne l'ai pas dit ça, mais vous êtes aussi patron de la rédac, vous êtes intervenu auprès du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Laurent Fabius, qui a permis de faire passer une loi. Racontez ce qu'il y a depuis votre passage.
Oui, alors quand on est patron, on est tenu de tenir le budget, évidemment. Et il y a quelque chose qui nous coûtait très cher, c'était les images de sport, de TF1, en particulier le foot. Ça coûtait très cher.
À cause de l'exclusivité.
Oui, à cause de l'exclusivité. Et évidemment, France 2 encaissait aussi de l'argent, mais ce n'était pas nous à la rédaction, c'était la chaîne, c'était la société. Et donc je suis allé voir Laurent Fabius, qui était président de l'Assemblée à ce moment-là, et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait faire passer une loi qui nous autoriserait, comme droit de l'info, si vous voulez, utiliser une minute trente d'images de sport gratuitement. Et il a fait passer la loi, il a été très compréhensif et très réactif, c'est-à-dire qu'un mois plus tard, on avait la loi.
Et cette loi existe toujours. Comment s'est passé le retour en France après une vingtaine d'années à l'étranger? En fait, je sais que vous dites, vous écrivez vers la fin, 299, dur aussi fut le retour dans la rédaction de France 2. Oui. Elle m'avait donné beaucoup de bonheur, mais elle avait beaucoup changé et cédé à une dérive autoritaire. Autoritaire dans quel sens, Alain Chalvron?
Autoritaire, c'est-à-dire qu'on vous imposait la vue de Paris sur une affaire. Quand on est à l'étranger, c'est quand même embêtant. Donc on vous disait, mais non, il faut dire ci, il faut dire ça. Et je n'étais pas du tout habitué à ça, parce que ça avait été une maison d'une grande liberté, qui faisait confiance aux gens, qui vous laissait vous exprimer, vous laissait exprimer votre talent, quoi, votre façon de voir les choses. Et ça, c'était fini. Il fallait se mettre dans le carcan. Et j'ai eu du mal à me mettre dans le carcan.
Et c'est pour ça que vous êtes parti
En grande partie, oui.
Mais quand même, quand vous étiez le patron de la rédaction, c'était dur. Vous dites le plus dur, ce n'était pas le journalisme, c'était de gérer les égos.
Oui, oui. Ça, dans les télévisions, c'est affreux. Il y a beaucoup d'égos. Et il y a beaucoup d'égos qui sont en conflit les uns avec les autres.
Un mot sur la profession de journaliste qui devient de plus en plus décriée. On le voit malheureusement sondage après sondage. Et là, vous êtes très positif. Vous avez envie que les gens viennent. Vous dites, les gens n'ont plus confiance en nous et c'est parfaitement injuste et anormal. Pourquoi injuste ?
C'est injuste parce qu'on fait bien notre travail, si vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les journalistes professionnels dans des maisons comme la vôtre ou comme France 2 ou dans les grands quotidiens et ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément très professionnels. Mais nous, journalistes professionnels, bon, c'est vrai qu'on fait de temps en temps des erreurs, mais pas tant que ça, franchement. Et quand on les fait, c'est de bonne foi. C'est vrai que quand vous avez un flic qui vous dit Dupont de Ligonnès est arrivé en Écosse, si c'est un flic d'un certain niveau, vous pouvez lui faire confiance. Alors, il faut toujours avoir deux sources, etc. Mais
Et en l'occurrence, je vais défendre les confrères, 5 flics différents, même s'ils avaient la même source, l'ont dit ça. Et alors justement, nous on rectifie, plutôt j'ai précisé, c'était, je le citais de mémoire, c'était Frédéric Charles, le journaliste suisse, et alias Georges Baumgartner.
Voilà, exactement.
Que vous connaissez exactement. Merci beaucoup Alain de Chalvron, je rappelle, ce livre en direct avec notre envoyé spécial, l'Archipel, et tout ce dont on n'a pas parlé, c'est également savoureux, je vous le conseille. Culture Média, merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue. Dans quelques instants, il y aura le journal de la culture, évidemment. Puis notre invité, Amanda Sterz, pour son nouveau roman, Lettre d'amour sans le dire. C'est l'histoire d'une femme qui reprend goût à la vie grâce à un masseur japonais. Et quand je dis la vie, je suis poli. Vous découvrez son portrait inattendu par Hélène Manarino, celui d'Amanda Sterz, pas du masseur. Et puis dans les indispensables musiques, le retour de la chanteuse Norah Jones avec un album optimiste. On en a bien besoin. Ce sera avec Angèle Châtelier qui en a bien besoin elle aussi. Et puis une série sur un groupe d'adolescentes passionnées de skate. Clémence Olivier a mis ses coudières. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.